Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, nous sommes heureux, en ce moment, d'être réunis ensemble pour ta gloire. Tu auras quelque chose pour chacun de nous, par les frères qui apporteront ta parole. Alors bénis cette assemblée, bénis ce moment, Seigneur Jésus, parce que tu es présent au milieu de nous et nous t'en remercions. Amen.
Pour partager ce moment, on prendra Ésaïe 53. On relira du verset 1 au verset 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Intercéder pour les coupables dont nous faisons partie. Ce passage que l'on connaît, que l'on lit souvent, annonce en détail la condition des hommes à cette époque et leur attitude envers Jésus. Annonce également le sacrifice de notre Seigneur avec tout ce qu'il a subi et enfin tout ce que nous lui devons. Cela aurait pu être plus court que 12 versets détaillés. Le prophète aurait pu résumer en annonçant que l'homme était perdu et que Jésus allait prendre nos péchés sur lui, donner sa vie à la croix pour notre rachat. Mais Dieu, par son prophète, a montré par ces 12 versets toute l'étendue du sacrifice de Christ, par amour pour nous, en n'omettant aucune facette de son acceptation du plan de Dieu. Et ces 12 versets sont là pour nous faire mesurer autant que possible la dimension du plan divin et l'amour de Jésus pour chacun de nous ici. Un ou deux versets n'auraient jamais pu contenir tout ce que renferme ce passage. On trouve dans Ésaïe 53 la condition de Jésus, au verset 2, « Une faible plante, un rejeton, qui sort d'une terre desséchée, ni beauté, ni éclat. » Et puis l'attitude des hommes, au verset 3. Les hommes l'ont méprisé, abandonné, dédaigné. Et puis on y trouve également dans Ésaïe 53 ce dont Jésus s'est chargé, au verset 4 et 5. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a tout pris sur lui, absolument tout. Ce châtiment qui nous donne la paix, ce châtiment qui devait être le nôtre, il l'a pris sur lui. Alors, comment imaginer ce qu'il a subi, lui, Fils de Dieu? On trouve aussi dans ce texte les péchés et l'errance des hommes. C'est ce qu'on a lu tout de suite. Nos péchés, nos iniquités, nos errances. Et puis il y a les souffrances qui ont été subies dans le silence et l'obéissance au Père. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est l'acceptation totale du plan de Dieu. Notre Seigneur n'a rien dit, alors que tout était ligué contre lui. Et puis enfin, si on peut dire, il y a l'abandon de Dieu avec notre Seigneur brisé par la souffrance à la croix. C'est ce qu'on a au verset 10. Et cette prophétie d'Ésaïe s'est parfaitement réalisée dans les moindres détails de ce qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Sans reprendre point à point, mais Jésus rejeté, Jean 1, verset 11, nous dit « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Notre Seigneur a bien été rejeté à ce moment-là. Jésus méprisé, abandonné, Marc 15, verset 19, dit « Il lui frappait la tête avec un roseau et crachait sur lui. » Le crachat, c'est pas forcément le seul symbole, mais c'est un symbole fort du mépris que l'on peut avoir pour quelqu'un. Et puis Matthieu 26, verset 56, qui concerne ceux qui l'avaient accompagné, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ce n'est pas le même mépris, mais par contre, abandonné, oui. Jésus méprisé, abandonné, c'est ce qui était annoncé. Et puis Jésus qui souffre en silence, malgré les injures et les coups. On pourra prendre quelques versets dans 1 Pierre 2, les versets 21 à 25. 1 Pierre 2, 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. On retrouve dans ce court passage, je ne vais pas dire un résumé, mais beaucoup de choses qui ont été annoncées dans Ésaïe. Et puis, Jésus qui donne sa vie volontairement. Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Si on revient à Ésaïe 53, il y a les versets 10, 11, 12 qui annoncent que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, c'est ce qui est annoncé au verset 10, qu'il justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. On a ça au verset 11. Et la conséquence pour nous, Romains 5, verset 1 nous le dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce qu'a fait Jésus nous a donné la paix avec Dieu. La paix pour ne plus être condamné. Et puis, le verset 12, lui, il annonce un futur glorieux. Un futur glorieux que Philippiens nous décrit. Le Philippiens 2, les versets 9 à 11, je vous le lis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est vraiment un futur glorieux. Après l'abaissement et les souffrances, la crucifixion, notre Seigneur est annoncé glorieux. Et nous venons de voir, de façon très synthétique, le plan de Dieu, où tout était prévu, où tout avait été annoncé en montrant la dimension du sacrifice de Christ. C'est Ésaïe 53, plus on lit ce texte, plus on peut être imprégné de ce que notre Seigneur a souffert. Nous avons un Dieu qui fait tout parfaitement. Matthieu 5, verset 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu fait tout parfaitement. On peut en être convaincu tous les jours par rapport au travers de nos vies, même si nous ne voyons pas forcément l'issue à chaque fois, mais Dieu fait tout parfaitement. Un Dieu qui a dans sa main tous les détails de nos vies, même si nous ne les comprenons pas, ou si peu, ou pas au moment où les choses se passent. À qui d'autre irions-nous pour être plus en sécurité? Question qu'on peut se poser. À qui d'autre irions-nous pour avoir la certitude de la vie éternelle? Jean 6, 18, juste rappeler ce verset. Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est vrai ce matin, ce sera vrai demain si nous sommes là. C'était vrai hier. Notre Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Nous allons partager ce repas en mémoire de lui, de tout ce qu'il a fait, annoncé dans Ésaïe 53 et réalisé avec sa venue parmi nous. Alors, soyons certains de sa présence au quotidien à nos côtés, de son amour pour nous et du chemin parfait où il veut nous guider, chaque jour. Ce chemin, des fois, peut être semé d'épines ou d'embûches et nous ne voyons pas le jour, on va dire, au bout. Mais lui, il a donné un chemin parfait. On peut terminer avec ce verset, Matthieu 28, 20, que l'on connaît bien. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, c'était hier, c'est maintenant. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sa mort à la croix était un passage obligé, suivant le plan de Dieu. Et il est ressuscité, vivant, et à nos côtés chaque jour. À nos côtés ce matin, et présent pendant ce moment de remerciement. Alors nous voulons le remercier et puis le louer pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, tu as remis devant nos yeux ce matin tout ce que tu as subi, tout ce que tu as accepté dans les prophéties d'Ésaïe 53. Tout s'est réalisé 700 ans plus tard. Tout s'est réalisé dans les moindres détails suivant le plan de Dieu. Nous savons que tout cela tu l'as fait par amour pour nous. Alors nous voulons encore te remercier et te louer pour cela. Amen.
Alors ce matin, je vous propose, on va remonter le temps un petit peu, à la rencontre d'un personnage bien connu, dont le nom est devenu proverbial, dont le récit nous a été préservé, parce qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner. Alors, vous avez compris, on va aller dans le livre de Job. Et pour commencer, on va commencer au chapitre 1, et on lira les 5 premiers versets. Donc Job, chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors on sait peu de choses sur Job, sur sa vie. D'après ce que j'ai pu lire, il est possible que son récit soit antérieur à la naissance d'Abraham, donc peut-être s'y situerait à la fin de Genèse 11, mais il n'y a pas de certitude absolue à ce sujet. La seule chose qui est certaine, c'est ce que nous rapporte la parole. Et en lisant ces quelques versets, on se rend compte que ce Job avait un beau CV. On va prendre les quelques points qui sont rapportés dans ces premiers versets. D'abord, il nous est dit qu'il est intègre et droit. Alors j'ai regardé, selon les mots du dictionnaire, intègre, ça veut dire une probité absolue. Autrement dit, on pourrait traduire par « il n'y avait pas dans sa vie de compromis, pas d'arrangement avec sa conscience ». Tout ce que Job savait être droit, être approuvé de Dieu, il le faisait, et à contrario, tout ce qui déplaît à Dieu était rejeté. Alors, cela vaut pour les actes, mais aussi ça englobe bien sûr les paroles, les pensées, toute la personnalité. Et c'est la marge journalière dans cette globalité qui est marquée par cette intégrité. Et on peut se poser aussi pour chacun de nous la question où me conduisent mes pieds, qu'est-ce qu'écoutent mes oreilles, qu'est-ce que regardent mes yeux. David lui avait supplié le Seigneur dans Psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. » Intègre et droit. Ensuite, il est mis qu'il craignait Dieu. Donc, c'est un homme qui ne joue pas avec Dieu. Sa marche chrétienne, si on peut dire, est empreinte du respect à son Créateur. Ce n'était pas une marche qui est motivée par la peur, mais d'un Dieu terrible, mais par le désir, on pense, sincère de plaire à Dieu. Quelques siècles plus tard, Dieu adressera un reproche au peuple d'Israël par la bouche de Malachie. On peut lire trois versets dans Malachie, chapitre 1. Malachie 1, verset 6 à 8. Donc là, Dieu s'adresse à son peuple. Et il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Les aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc là, on a la marche opposée. Le peuple, les sacrificateurs n'avaient pas de crainte de Dieu. Donc, un homme intègre qui craint Dieu et qui craint le péché. C'est également ce qui ressort de ces premiers versets. Le pendant de cette marche dans la dépendance du Seigneur, dans l'indépendance de Dieu, conduit Job à se détourner du mal. Ça, c'est le verset 1. Il écrit, dans ma Bible, c'est « se détourner ». Il ne s'agit pas simplement d'une adhésion intellectuelle à quelques règles morales ou à des principes qu'il aurait louables, mais fruit de son éducation religieuse ou de ses coutumes. Non, se détourner, ben, ça implique une décision résolue, une mise en pratique décidée. On pourrait dire que Job, par avance, suit les conseils que Paul donnera à Timothée bien après. Timothée 2, 22, je vous le lis, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Un autre point que l'on peut retirer, c'est qu'il est une sorte de sacrificateur pour ses fils. Job a un fardeau sur le cœur. La bonne santé spirituelle de sa famille, de ses fils, de ses filles, de son épouse, j'imagine. Et les fils de Job, qui sont déjà adultes, établis, bien se retrouver, ça nous est dit, tour à tour de rôle dans la maison avec leur sœur. Job ne présuppose rien d'inconvenant dans cette réjouissance familiale, mais il craint que le Seigneur ait pu être offensé. Et on voit que dès le matin, dans la prière, dans l'intercession, eh bien, il intercède pour ses enfants. Et Charles Spurgeon avait fait une application de ce texte. Je vais vous lire ce qu'écrit Charles Spurgeon sur ce verset. « Ce que le patriarche fit très tôt le matin, après les fêtes familiales, il serait bon que le croyant le fasse pour lui-même avant qu'il ne se couche pour la nuit. Dans les moments de bonheur ou d'insouciance qui accompagnent les rassemblements familiaux, il est facile de glisser dans la légèreté coupable et d'oublier notre nature profonde de chrétien. Cela ne devrait pas être le cas, mais force est de constater que les jours où nous festoyons sont rarement des jours où nous cultivons la sanctification. Ils dégénèrent trop souvent en réjouissance impie. La sainte gratitude devrait être un élément aussi purificateur que la tristesse. Hélas, pour notre pauvre cœur, ces faits prouvent qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Chrétien, en quoi as-tu péché aujourd'hui? As-tu, comme les autres, laissé échapper de ta bouche des paroles vaines et des propos licencieux? Confesse donc ton péché et offre le sacrifice. Le sacrifice sanctifie. Le précieux sang de l'agneau immolé ôte le péché et purifie de toute souillure provoquée par nos péchés d'ignorance et de négligence. » Ça, c'est la réflexion de Charles Spurgeon. Et puis, on voit aussi que ce Job, c'est un homme qui est persévérant. C'est le dernier point de son CV, on l'a au dernier verset, verset 5. Job, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Une des caractéristiques humaines, c'est souvent que la persévérance n'est pas notre point fort. Elle fait défaut, et pas seulement dans le domaine spirituel. Dès qu'il faut faire un effort ou que survient une contrariété, on abandonne vite ce qu'on a commencé, un bon arrêt de travail ou un congé maladie, et tout est joué. Et on en est tous souvent témoins. Et pourtant, la parole nous rappelle combien la persévérance dans notre marche avec le Seigneur est nécessaire. Je vous lis juste trois courts versets d'Hébreux 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Donc là, Dieu s'adresse à Abraham. Verset 15 du chapitre 6. « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet des promesses. » Alors Abraham, qui est le père de la foi, celui qui quitta son pays pour obéir au commandement de Dieu, sans savoir où il allait, il a dû apprendre dans sa vie journalière à persévérer. Alors, il y a eu des chutes, il y a eu des détours en Égypte. Il fut parfois mis à l'épreuve, mais il est resté accroché aux promesses de Dieu et il a persévéré jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des contre-exemples dans la parole. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 cette fois, versets 8 et 9, je vous les lis aussi. Là, c'est un reproche. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Donc là, on a les conséquences de la non-persévérance. Dieu ne s'est plus soucié d'eux. Dieu a voulu le bien pour son peuple, il l'a délivré d'Égypte, il l'a conduit, comme un homme porte son fils, d'après Deutéronome. Il lui a donné la loi pour le protéger des mauvaises actions païennes. Mais ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi, je ne me suis pas soucié d'eux. Le peuple a été discipliné, mais sans succès. Alors, ce n'est pas l'alliance qui était mauvaise, mais la nature de ceux à qui elle s'adressait. C'est aussi pour ça que l'Épître de Jacques nous encourage à ne pas faire de même. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc il y a ce lien entre la persévérance et « sera heureux dans son activité ». Donc voilà en quelques mots, un petit peu, ce qui était Job. Un homme intègre, droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui respecte la parole, qui fuit le péché, qui est un cœur d'intercesseur, qui a à cœur la santé spirituelle des siens, de sa famille, et qui montre de la persévérance dans sa marche. Or, après ce qu'on vient de dire, si on interrogeait une personne qui ne connaît pas la suite des récits, et qu'on lui pose la question, maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver ? On peut s'attendre aux réponses suivantes. Dieu va le bénir davantage, ses richesses vont s'accroître, et sa vie sera paisible et douce. Alors oui, c'est juste que Dieu a dans le cœur de plus grandes bénédictions pour son serviteur, mais après un chemin bien particulier. Et on va lire la suite à partir du verset 6, toujours de Job 1 à 12. Donc Job 1, 6 à 12. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors là, dans ces quelques versets, on a un petit coin du voile qui se lève sur une scène céleste. Nous avons part aux débats qui ont lieu dans le ciel, comme ça est le cas dans 1 Roi 22 ou dans Zacharie 3, où voilà, on a part à quelques événements qui se passent dans le ciel, dans la présence de Dieu. Alors déjà, on y découvre l'intérêt que Dieu porte à celui qui lui est fidèle. Souvent, nous n'avons pas conscience de l'importance que nous avons pour le cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes les sujets des propos de Dieu dans le ciel, comme c'était le cas pour Job ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui est dit de chacun de nous ? Au milieu des anges, apparaît Satan, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui, selon Apocalypse 12, est l'accusateur des frères. Dieu lui demande d'où il vient. Autrement dit, il doit rendre des comptes. Il n'est pas souverain, c'est juste une créature. Et puis, c'est Dieu qui prend l'initiative, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui conduit les débats. Je pense de savoir pour chacun de nous que nous sommes entre les mains de notre Père Céleste, et non dans celle du diable. Dieu prend le temps de considérer Job, c'est le terme qui est employé dans la version d'Arbi. Il décrit sa vie sans reproche et le nomme « mon serviteur ». Voilà, l'Éternel, Dieu est souverain, c'est lui qui fixe les limites, et rien ne se fera sans qu'il l'ait décidé. C'est confirmé dans Lamentations 3, 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Alors nous n'irons pas le récit des épreuves qui vont toucher Job, vous les connaissez, ce n'est pas le but ce matin, mais plutôt de voir la réaction, sa réaction face au déferlement de mal qui va s'abattre sur lui. On sait donc qu'il va perdre ses bœufs, instruments de travail, les laboureurs, ses brebis, ses bergers, ça c'est la nourriture, c'est les vêtements, les chameaux et les chameliers, moyens de transport et de commerce. Et ensuite, la perte principale, celle de ses 10 enfants. Alors l'épreuve est terrible, à la fois par sa soudaineté, puis par sa simultanéité. Il est pour ainsi dire, je pense, impossible de se mettre à la place de Job si on n'a pas vécu au moins un peu une telle situation. Et peut-être dans cette situation similaire ou moindre, nous aurions sombré dans la dépression, dans la révolte. Mais lisons ce qui est intéressant dans ce texte, les versets 20 à 22, la réaction de Job. Donc toujours chapitre 1, versets 20 à 22. Après cela, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or le coup a été rude, c'est sûr. Et la réaction de Job, là, est impressionnante de soumission et de piété. Il se lève en signe de respect, il déchire son manteau en signe de deuil, d'affliction, et il se jette à terre en signe d'adoration. Il n'a manifestement rien à faire avec Satan, avec les circonstances, mais il se tient devant Dieu, dont il reçoit toute chose. Trois choses rendaient possible cette attitude dans le cœur de Job. D'abord, il considère que tous ses privilèges sont un don de Dieu, et l'Éternel a donné, et non un dû. Il laisse à Dieu la souveraineté, l'Éternel a ôté, estimant plus encore le donateur que les dons reçus. Et puis il bénit l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, c'est-à-dire qu'il proclame qu'en Dieu est toute bonté. Et dans cette épreuve, Job a été de ceux dont le psalmiste écrit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté ». Or la suite du récit, vous la connaissez aussi, nous apprend qu'il va y avoir d'autres épreuves dans la vie de Job. Je vous lis juste les versets 8 et 9. « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Et là, trois nouvelles épreuves vont toucher Job. D'abord la maladie, peut-être l'épreuve la plus dure, une maladie qui le frappe douloureusement. Ensuite, la défaillance de sa femme, qui en cette circonstance n'a pas été vraiment de bon conseil. Et puis ensuite, dans le reste du récit, on sait que ses amis n'ont pas été les meilleurs du monde pour le soutenir. Et une fois encore, malgré la violence de ses attaques, eh bien, il tient ferme. Elle le montre par les paroles du verset 10. « Nous ne recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il y aurait beaucoup à dire et à développer sur ces versets, mais le point que l'on veut souligner, c'est une fois encore la constance, la fermeté, contre vents et marées, malgré l'adversité, il est resté ferme dans sa marche. Alors j'aimerais juste partager avec vous deux courts textes de la parole qui nous enseignent, mais qui surtout aussi nous encouragent à rester fidèles dans la marche que le Seigneur nous montre. D'abord, les paroles du Seigneur. Après avoir révélé à ses disciples qu'ils auront diverses épreuves, ils reçoivent cette belle promesse, c'est Luc 21, 19. il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Et puis, une autre belle promesse dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12. Hébreux 6, 10 à 12. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré à son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Or, est-ce qu'en tout cela, Job a été perdant ? Est-ce que Dieu, finalement, est redevable à la fin de quelque chose ? Eh bien, on va aller à la fin de ce livre, au chapitre 42, versets 5 et 6. Job 42, 5 et 6. Vous connaissez la conclusion, on va la relire ensemble, à partir du verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » On peut tirer quatre points de ces versets. 1. La croissance spirituelle. Sa connaissance de Dieu a été bouleversée et enrichie par la présence même de Dieu. Deuxièmement, ce contact personnel rend l'homme conscient de l'étendue de son péché, comme Ésaïe, qui, dans Ésaïe, vous connaissez le verset Ésaïe 6, ou Pierre devant le Seigneur Jésus dans Luc 5, Job exprime ici une vraie repentance et puis un engagement plus profond dans sa marche chrétienne. Troisièmement, il pourra être un instrument de Dieu pour intercéder pour ses amis, et sa prière sera entendue, pourrait dire, il a maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. Et finalement, il reçoit une pleine et entière bénédiction, ce que Dieu ne donne pas avec retenue, mais avec abondance. Alors j'aimerais maintenant vous, un petit peu en forme de conclusion, vous lire une petite méditation que j'ai trouvée sur ce passage. Et le frère qui l'a écrit donne sept points qui nous permettent d'expliquer le pourquoi de cette marche fidèle avec le Seigneur. À la fin de sa vie, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions que les premières. Et voici les sept points qui expliquent sa marche. Tout d'abord, on l'a dit, la sanctification. Job était intègre et droit, il craignait Dieu, se détournait du mal. Et la parole nous dit que le juste n'est pas abandonné, ni sa postérité ne mendiera son pain. C'est le psaume 37. C'est pour cela que Job s'attela à mener une vie sainte et obéissante, respectant les principes et les préceptes de Dieu. Premier secret de sa marche, la sanctification. Le deuxième, la charité. Ça, ce sont les chapitres 29 et 30, on est passé dessus. Mais il dit au verset 15 du chapitre 29, « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. » Et verset 25 du chapitre 30, « N'ai-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent ?» Et la pratique de la charité lui a permis, il exprime au chapitre 29, d'espérer en retour le bonheur et les biens. La persévérance, c'est aussi un point qu'on a évoqué. Malgré les malheurs qui lui arrivèrent, Job persévéra dans la crainte du Dieu Tout-Puissant et le bénit en déclarant « L'Éternel a donné » et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. On a lu ces versets. Dans le malheur, l'enfant de Dieu doit garder confiance dans le Seigneur, qui seul donne la victoire éternelle. Ensuite, la patience. Job attendait avec foi son relèvement par le Seigneur Tout-Puissant. Et il le confesse en disant, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est dans le chapitre 19. Cinquième point, la détermination. Ça rejoint à la persévérance un petit peu. Malgré les propos de ses trois amis venus le consoler, qui cherchèrent plus à lui faire admettre des péchés qu'il n'avait pas commis, il n'a pas été influencé. Jusqu'à son dernier soupir, il dit au chapitre 27, « Je défendrai mon innocence. » L'enfant de Dieu qui est conduit par le Seigneur doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter le royaume des cieux. Sixième point, l'humilité. Pendant sa souffrance, Job ne s'était jamais humilié devant l'Éternel, mais à la fin, il reconnut la souveraineté de Dieu. donc chapitre 42. Il se condamna et se repentit sur la poussière et la cendre. La vie chrétienne comporte des tribulations qui risquent de faire croire quiconque n'est pas affermi en Christ. C'est pourquoi la détresse doit pousser le croyant à chercher la face du Dieu vivant et non à se détourner de lui. Et puis, point 7, une vie de prière. Voici ce que déclare Job au sujet de la fréquence des prières. Donc, chapitre 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? C'était une réflexion à propos d'un de ses amis. Ceci révèle la place de choix occupée par le Très-Haut dans l'existence de Job, qui le priait sans cesse pour vivre en harmonie avec son Père céleste. La vie de prière fervente est le secret de la réussite spirituelle et matérielle du chrétien. Le témoignage favorable de la vie de Job est un modèle pour quiconque désire être béni en Christ notre Roi. Après sa réussite et ses épreuves, Job vécut 140 ans, mourut âgé et rassasié de jours. Donc je vous redis les points qui ont été là. Sanctification, charité, patience, détermination, humilité et vie de prière. Alors que voilà, nous puissions au moins, peut-être pas devenir des Job, mais au moins avancer un petit peu sur ce chemin-là, progresser sur certains points. Alors je vous propose qu'on chante le Cantique 411, si vous voulez bien, parce qu'il a été écrit par un homme qui a vécu une expérience assez similaire. Horatio Spafford, c'est un avocat de Chicago, assez riche, qui avait bien réussi, qui avait beaucoup de biens, aussi un chrétien fidèle qui avait accompagné Moody dans bien des tournées d'évangélisation. Et à Chicago, il y a eu en 1871 un incendie qui a tout ravagé. Donc tous ses biens matériels ont été détruits, son cabinet d'avocat, enfin il n'y avait plus rien. Et il a envoyé son épouse et ses quatre filles en Europe pour les mettre à l'abri. Et lui devait les aller peu de temps après les retrouver. Donc elles ont embarqué sur le bateau, qui s'appelait le Ville du Havre. Et au milieu de l'Atlantique, il a été éprôné par un autre navire et il a coulé. Sa femme a survécu, il y a eu quelques survivants, et ses quatre filles de 11, 9, 5 et 2 ans sont mortes noyées. Elle, quelques semaines après, il a pris le bateau pour retrouver voir sa femme, et quand il est arrivé à l'endroit où a eu lieu le navire, et bien, il est descendu dans sa cabine, et il a écrit ce cantique qu'on connaît en français sous le nom « Quel repos céleste ».
Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que nous venons de passer devant toi. Te remercier pour ta parole que tu nous as donnée, pour cet enseignement que tu nous donnes, pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous rappeler quel repos, Seigneur, de te faire confiance, de t'avoir dans nos vies. Que c'est toi, Seigneur, qui gère toutes choses, qui conduit les petits détails comme les grands. Tu es là, tu es présent et tu veux nous conduire, Seigneur, et nous amener tout près de toi. Merci, Seigneur, pour cette présence en nous, pour ton amour, pour ton pardon aussi, tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Tu nous raccompagnes, Seigneur. Tu es avec chacun de ceux de nos membres aussi, de notre famille, qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne t'appartiennent pas encore, pour que tu puisses les trouver et les amener à toi. Amen.